Stop, c'est parti.
C'est quoi la télé?
Nous allons parler de l'information.
MTV. Les journalistes ne m'intéressent pas.
You are fake news.
Il est 9h41 sur France Inter. Soyez les bienvenus, c'est le dernier instant de la semaine.
On coupe?
Non, je coupe.
Vous êtes en direct, allez-y.
Cette année au plus aigu de la crise sociale qui secouait la France tous les samedis après-midi, le ministre de l'économie italien s'est déplacé chez nous pour rencontrer des gilets jaunes. Des quoi ? Oui, des gilets jaunes, des gens supposés ne rien vouloir entendre de l'Europe. Là, on s'est dit, ça suffit, qu'on cesse de nous raconter que l'Europe n'intéresse personne, indiffère tout le monde et en premier lieu les journalistes. Parce qu'en réalité, cette narration transnationale, elle se fait et elle se fait dans tous les JT. Battons en brèche donc ce matin ce cliché qui veut que de l'Europe on ne parle jamais et demandons-nous ce qu'on en dit aujourd'hui. Quels sont les leviers médiatiques de son nouveau récit ?
L'instant M. Sonia De Villers sur France Inter.
Et bonjour Nora Hammadi.
Bonjour.
Soyez la bienvenue, rentrée 2018, vous prenez la suite de Monsieur Jean-Paul Lepers.
Monsieur Jean-Paul Lepers.
Voilà, à la tête de Vox Pop, l'émission qui sillonne l'Europe et qui nous la raconte. On va vous expliquer comment sur Arte tous les dimanches soirs à 20h05. Un petit mot quand même pour préciser que l'Europe c'est un sillon journalistique que vous creusez depuis des années, Nora Hammadi.
Depuis 10 ans.
Voilà, vous avez travaillé à iTélé qui était l'ancêtre tout à fait regardable de CNews. Vous avez travaillé sur Public Sénat, vous avez travaillé à France Info. Est-ce que vous conseilleriez, vous, à un jeune journaliste, de soigner cette spécialité ?
Complètement.
Pourquoi ? Parce que personne veut s'y coller.
Parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de débats autour des questions européennes et ce depuis 10 ans. Alors, est-ce qu'on doit dire merci la crise peut-être ? Mm-hmm. Parce que l'Europe est en crise depuis une dizaine d'années, mm-hmm. entre la crise grecque, la crise des dettes souveraines, la crise migratoire, on a le Brexit. Enfin voilà, je vais pas les énumérer.
Et que dans les rédactions, on manque de gens.
Et on manque de spécialistes. Ouais. Et on manque de spécialistes parce que c'est une matière qui est à la frontière en fait entre l'économie, l'international, le social, le diplo et que en fait, ça nécessite des savoir-faire particuliers. Et après, c'est quand même assez simple comme matière. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a un maximum de sources, contrairement à ce qu'on peut avoir, par exemple, dans les milieux économiques, entre autres.
Aspirant à la carte de presse, ouvrez bien grand vos oreilles. Bonjour Bruno Demey.
Bonjour Madame De Villers.
Mon compagnon du vendredi matin, on y vient dans un instant à sa semaine médiatique. Un petit mot d'abord pour vous dire qu'il y a un grand ménage de printemps qui s'est opéré hier au sein du groupe M6. Le Parisien annonce que le directeur des programmes de la 6, Frédéric de Vincel, a été écarté. Bon, la chaîne a enchaîné quelques flops ces derniers temps. Quant au Figaro, il révèle le départ assez brutal de Christopher Baldelli, directeur de RTL. Vous savez que M6 a racheté RTL l'année dernière. Or, RTL, doublé par France Inter, a perdu son statut de première radio de France, ainsi que l'un de ses piliers, Marc-Olivier Fogiel. RTL sera désormais dirigé par Régis Ravanas, qui vient de chez TF1. Enfin bref, Nicolas de Taverneau, grand patron du groupe M6, donc de RTL également, continue d'asseoir son pouvoir. La Madeleine du vendredi, après 2 semaines où on a été obligé de s'en passer, faute de temps, et j'en suis désolée, je comprends tous ceux d'entre vous qui ont râlé. Ce matin, je vous offre en DVD le formidable Cyrano de Bergerac de la Comédie Française, mis en scène par Podalides, à regarder obligatoirement en famille. Le mail n'a pas changé, c'est l'instant M tout attaché à radiofrance.com. Voici la question du jour. Comment s'appelait cette émission animée par Christine Ockrent de 1997 à 2007? On était sur France 3.
D'ordinaire, rien ne s'exporte plus mal qu'un homme politique. D'un pays à l'autre, souvent, on ignore tout des péripéties, des débats, des acteurs de la vie politique des autres.
Christine Ockrent sur France 3 au début des années 2000. C'est très intéressant d'ailleurs, je trouve, ce qu'elle dit, que ça s'exporte mal un homme politique. On va en parler dans un instant avec Nora Hammadi. En attendant, l'instant M à radiofrance.com si vous avez reconnu le nom de l'émission. Alors, Bruno Donnet, vous avez voulu, cette semaine, rapprocher 2 événements, l'Eurovision et l'interview d'Emmanuel Macron dans la presse régionale, car vous nous dites ce matin que Macron, Madonna, même combat.
Oui, Sonia, figurez-vous qu'il y a du Madonna dans notre président de la République. Alors pourquoi ? Je vous explique. Si vous avez regardé samedi en direct la retransmission de l'Eurovision, la prestation de Madonna chantant passablement faux vous aura forcément un peu écorché les tympans. Mais si vous avez regardé regarder dès le lendemain le même passage, cette fois-ci sur la chaîne YouTube de la Madone, eh bien vos oreilles auront été totalement épargnées. Tout simplement parce que grâce à un petit logiciel absolument épatant qui s'appelle Autotune, le staff de la chanteuse a réussi à effacer les fausses notes. Démonstration, voici un petit extrait issu de la version originale de l'Eurovision. Voilà, Madonna I call his name un peu trop bas. Et maintenant, voici la version revue et corrigée après passage par l'autotune. Voilà, plus de problème de call dans les chaussettes, tout a été rehaussé. Même topo quelques secondes plus tard avec ce passage-là. V'là pour la version Eurovision et écoutez maintenant la version de YouTube. C'est rudement bien fait. Un petit dernier pour la route. Allez, Eurovision. Ouais, ça déraille un peu, mais miracle de l'informatique. Voilà, c'est limpide, ça ne déraille plus, les couacs ont disparu. Alors vous allez me dire, ok, bien compris mon petit bonhomme, mais quel rapport avec Emmanuel Macron ? Eh bien le rapport, Sonia, il est simple. Mardi, près de 50 titres de la presse quotidienne régionale ont publié rigoureusement la même interview du président de la République. Une interview chorale, mais surtout une interview soumise à la relecture et à la correction des services de l'Élysée. Entendez donc une interview passée par l'autotune des communicants, d'où l'association avec Madonna, CQFD. Alors cet événement a curieusement été assez peu commenté cette semaine et c'est bien dommage car deux titres ont catégoriquement refusé de publier la parole présidentielle dans leur colonne et il m'a semblé très important de faire entendre ici leurs arguments. Le premier s'appelle La Voix du Nord et a fait savoir qu'il s'était engagé auprès de ses lecteurs à ne plus publier d'interview soumise à relecture. Tout simplement parce que même si les risques de couac, c'est ennuyeux, même si lire ces propos retranscrits par un journaliste et non pas par vous-même, c'est souvent déroutant, lorsqu'on accorde une interview, c'est le principe, on accepte aussi de faire confiance à celui qui recueille vos propos et de les livrer au tamis de sa sensibilité. Et le second, eh bien, c'est le Télégramme qui, par l'entremise d'un tweet de son directeur de l'information, Hubert Coudurier, a opportunément fait remarquer qu'il n'appréciait guère le format collectif de cet entretien, dont le principe, écrit notre confrère, est une négation de l'identité des titres de la presse régionale et des territoires qu'ils représentent. Judicieuse mise au point, car peut-on effectivement imaginer qu'un lecteur des dernières nouvelles d'Alsace qui partage sa frontière avec l'Allemagne a strictement les mêmes préoccupations qu'un lecteur de l'Indépendant qui tutoie l'Espagne ? Et est-on sûr qu'un journaliste du Petit Bleu d'Agen, par exemple, aurait posé à Emmanuel Macron exactement les mêmes questions qu'un de ses confrères de la Charente Libre ou de l'Ardennais. Alors voilà, confondre la presse régionale avec un simple dépliant publicitaire, c'est fâcheux. Mettre tous ses lecteurs dans le même sac curieusement rapide et vouloir contrôler à ce point le refrain que l'on entonne pour imposer sa vision de l'Europe, une méthode qu'on préférerait voir réservée à l'Eurovision et à Madonna.
Merci Bruno. À réécouter sur franceinter.fr. Bravo à Cécile et Samir qui ont répondu de concert parce que ce qu'il fallait reconnaître comme archive tout à l'heure, c'était France Europe Express. Évidemment, des souvenirs de quand on était un petit peu plus jeune. Nora Hamadi à la télévision.
Tout à fait.
L'instant M, c'est aussi en vidéo sur franceinter.fr.
Les marques de prêt-à-porter sont-elles les reines du gaspillage? Évidemment, dénoncent les citoyens anti-gaspi. L'industrie textile ne pense qu'à produire et produire encore. Bande d'ingrats, rétorquent les marques de prêt-à-porter. Si on produit autant, c'est parce que vous êtes fanatiques de robes, de vestes et de costumes à la mode. La preuve, les Européens. En 2016, vous avez consacré près de 5% de votre budget aux vêtements et aux chaussures. C'est plus que vos dépenses de santé.
Vox Pop tous les dimanches sur Arte à 20h05, ça dure 28 minutes pour de vrai, alors que l'émission 28 minutes, elle dure beaucoup plus sur Arte.
42, je crois.
C'est ça, Vox Pop donc, émission de télévision française dans laquelle on prononce le plus le mot direction après Capital de M6, sauf que dans Capital de M6, on dit toujours et maintenant direction le centre-ville. Là, Nora Hamadi a dit direction les Pays-Bas, direction la Grande-Bretagne, direction l'Espagne, dans un même lancement. Pourquoi ? Parce que Vox Pop n'est pas une émission sur les institutions européennes, pas une émission politique, pas une émission touristique, c'est quoi alors ?
C'est une émission d'enquête et d'investigation sur un continent, qui est le continent européen. Mmh. On a toujours tendance à croire que l'Europe, c'est d'abord les institutions. Il y a eu un peu cette prise d'otage autour des questions européennes. Oui, mais c'était moins le cas en fait avant. Je vous rappelle que on se souvient peut-être pour les plus vieux d'entre nous de Froufrou. De cette émission de Christine Bravo.
Union libre. Bah oui, mais c'est exactement
c'est
le
ça,
même principe.
Exactement. Ouais. Et bah du coup, voilà, on avait quand même à une époque des émissions qui parlaient
alors,
d'Europe
Union
de
libre
manière
a
un
son
peu frivole.
Héritière.
Oui,
ça
celle
s'appelle
de Stéphane Bern.
Baiser de roi. Oui, qui s'est fait dégommer dans un papier du Monde cette semaine. Du coup, on a regardé.
Mm-hmm. Bon, écoutez, on n'est pas là pour... mais quoi qu'il en soit...
Pour enfiler les stéréotypes, si,
oui,
si, sur France 2,
mais,
si, manifestement.
Là, en l'occurrence...
la télévision comme il y a 20 ans.
Là, en l'occurrence, en fait, c'est assez intéressant de voir que c'est avant d'avoir les questions politiques, c'est surtout, en fait, l'histoire d'un continent. Et c'est des débats, en fait, qui traversent tous les pays d'Europe. Et c'est toujours assez sympa, en fait, d'aller voir ce que font nos voisins. Mm-hmm. Voilà, donc on a la chance de pouvoir le faire.
Ce que je trouve flagrant, moi, dans Vox Pop, c'est que c'est une vraie émission de société avec des sujets hyper variés et pas spécifiquement européens, parce que c'est ça qui est assez... repoussant ou intimidant.
Mais c'est quoi un sujet européen ?
Voilà, c'est ça. C'est ça. Là, vous traitez des eaux, du gaspillage de l'industrie textile, des tests ADN, de l'emploi des jeunes, etc. Sauf que c'est toujours traité avec un grand angle, un angle transnational. C'est-à-dire, quand vous racontez comment un Daniel Kretinsky, qui est né dans une Slovaquie émancipée de l'Union soviétique, va racheter des centrales à charbon en Allemagne, va faire beaucoup d'argent et du coup va arriver en France pour acheter le journal Le Monde et que maintenant on se demande quelles sont ses relations avec l'Union soviétique. Bah là, on comprend l'intérêt.
Bah là, on comprend l'intérêt parce qu'en fait, on est dans un continent qui est interpénétré. Oui. On n'a plus de frontières. On est dans un espace en fait qui fonctionne ensemble depuis maintenant plus de 70 ans, qui s'est en plus ouvert à des nouvelles nations au centre, enfin en Europe centrale et orientale. Donc en fait, ça interroge aussi ces liens et c'est ça qui est assez intéressant. C'est pas de le faire de manière juste théorique dans le cadre d'un studio télé avec des spécialistes, mais c'est d'aller justement sur le terrain et de faire savoir et de montrer en fait ce qu'il y a à montrer autour de ça.
Alors en même temps, vous parlez à qui, Nora Hammadi, avec Vox Pop ? À un public
alors, à plein de gens.
À plein de gens.
À plein de
pas
gens.
Un public relativement âgé, aisé, cultivé,
alors, après...
qui n'est pas eurosceptique, c'est-à-dire qu'on sent bien que dans Vox Pop, il n'y a pas de volonté d'évangéliser. On parle à des gens
mais
déjà
en fait, est-ce qu'on peut non même pas parce qu'en fait est-ce qu'on peut évangéliser à partir du moment où on vous parle de la situation des EHPAD et des personnes âgées en Europe quand on vous parle de pollution quand on vous parle de politique de transport ou de ce que vous achetez chez H&M ou autre grand producteur de vêtements mondiaux non en fait il y a rien d'évangélisant là-dedans après ça reste le public d'Arte mais qui a tendance en fait à voir sa moyenne d'âge baisser et c'est ça qui est assez intéressant c'est que tout ce qui est consommation délinéarisée, c'est-à-dire le replay, etc., nous apporte aussi, via les réseaux sociaux aussi, des spectateurs en fait, qu'on n'irait pas toucher. Mais après, c'est ça justement l'enjeu. C'est comment parler d'Europe finalement sans dire qu'on parle d'Europe institutionnelle.
C'est ça,
et en fait,
exactement.
On en parle pratiquement jamais.
Pratiquement jamais. C'est ça qui est passionnant dans la ligne éditoriale de cette émission. Est-ce que vous qui couvrez ces thématiques depuis de longues années, Nora Hammadi, il ne vous semble pas évident que l'Europe a enfin trouvé son récit médiatique à travers, on va dire, d'un côté le populisme, de l'autre le Brexit et peut-être que les deux vont ensemble, mais que en tout cas ce récit médiatique, il est plus existant, il est plus palpable que jamais. C'est-à-dire que la montée des populismes, la Pologne, la Hongrie, l'Italie, avec des personnages médiatiques, les Orban, les Salvini, d'un seul coup, ça s'invite dans les JT. Même un Steve Bannon, ancien conseiller de Trump, arrive en France.
Oui, chez RMC, chez Jean-Jacques Bourdin. Alors après.
Avec interview dans Le Parisien.
Mais oui, complètement. Mais en fait, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que du coup, ces figures médiatiques vendeuses, en fait, d'un récit, alors qu'on aime ou pas, ça après, on n'est pas là pour en juger.
Mais c'est un récit médiatique.
Mais c'est un récit. Ouais. Mais parce qu'en fait, il n'y a pas de contre-récit. Qui aujourd'hui peut porter ce leadership européen qui peut créer un contre-récit ? Personne. Pardon pour Jean-Claude Juncker, pardon même pour Emmanuel Macron, et pourtant c'est celui qui potentiellement a tenté le plus d'incarner ce contre-récit. Et on voit qu'il a quand même du mal à y arriver. Après, je dirais que plus loin encore que le Brexit et que cette question du populisme, c'est la crise qui crée du récit européen malheureusement. Et depuis 10 ans, en fait, ça a commencé avec la crise grecque. On a eu la crise des dettes souveraines et les sauvetages hyper dramaturgiques, en fait, de l'Irlande, de du Portugal, de la Grèce. Il y a eu la crise aussi de l'accueil des réfugiés, avec donc ces bateaux qui arrivent à Lampedusa, qui arrivent en Grèce aussi. La Turquie, ces images en fait qu'on a pu voir à l'automne 2015 de ces arrivées en Allemagne, en Hongrie. Donc en fait, ce récit, il est dramaturgique de fait. Oui. Maintenant, c'est comment on arrive à créer, enfin à restituer cette dramaturgie.
Est-ce que le Brexit vous a pas fourni à vous, journalistes, et à nous tous, journalistes, le meilleur kit pédagogique sur l'Europe, tellement facile à illustrer.
Au début, mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Non. Plus personne ne comprend rien. La preuve, aujourd'hui, on attend les résultats des Britanniques qui ont voté hier, en fait, les premiers avec les Pays-Bas aux élections européennes. Donc oui, effectivement, il y avait quelque chose de l'ordre du récit qui a aussi
au
créé
départ,
un
il y avait les
bascule.
Camions, le tunnel bouché, les exportations de ventes, les importations de médicaments, les banques, les frontières avec l'Irlande. Oui.
C'était facile d'expliquer
à travers tout ce qu'ils allaient perdre.
Mais aujourd'hui, en fait, l'explosion de la scène intérieure britannique et l'incapacité à sortir fait qu'on est dans un contre-récit qui peut être plus destructeur parce que ils ont voté il y a 3 ans, quasi. C'était au mois de juin de 2015, et ils sont toujours pas sortis. Qu'est-ce qu'on comprend? Qu'en fait, il est impossible de sortir. Donc, après, il y a eu quand même un point de bascule. Vous parliez des populistes. Depuis le Brexit, il est hors de question pour aucun d'entre eux de sortir. Oui. Plus personne ne prône, par exemple, le Frexit, si ce n'est
Asselineau. Et ça, c'est un virage médiatique
complètement
également. Alors, parlons aussi de ces institutions, puisque nombre de journalistes y sont accrédités, les suivent, y vivent.
1200.
Voilà. Vous présidez une association des...
J'ai présidé.
Et vous la vice-présidez.
Je la vice-préside.
Madame, une association des journalistes européens. Vous allez nous expliquer ce que c'est. Le Monde tentait récemment une comparaison que j'ai trouvée extrêmement juste avec la télévision, avec la politique américaine, montrant comment le public français, les journalistes français sont capables de se passionner pour les midterms, par exemple, aux États-Unis, de médiatiser en France l'émergence de figures telles que Alexandra Ocasio-Cortez, et pas l'Europe.
Mais pas l'Europe, parce que d'une part, il y a un déficit d'incarnation.
Et pas l'Europe.
Il y a un déficit d'incarnation. Les institutions européennes sont complexes et elles sont extrêmement éloignées de notre réalité française. Il n'y a rien de plus compliqué que de se figurer le système de prise de décision au niveau européen quand on est français, parce qu'on n'est pas dans un système parlementaire, par exemple, à l'allemande. On n'est pas dans un système régional comme à l'espagnol. Et du coup, ça nous paraît extrêmement lointain.
Et beaucoup moins de journalistes français présents
que d'allemands, que de japonais, que de chinois.
Vraiment?
Il y a plus d'accrédités chinois que de journalistes français.
Il y a que 2 chaînes de télé qui ont un correspondant là-bas.
Oui, et pas TF1 qui est une des premières télés de France, par exemple.
Bah oui, voilà. Si ce n'est la première. Parlons peut-être de notre cuisine un peu à nous, Nora Hammadi, celle des journalistes, en tout cas de celle qu'on essaye tous les jours de vulgariser, de partager avec vous dans l'instant même. L'avenir de l'information se joue au niveau européen. Voilà l'un des enjeux de l'Europe. Je le dis parce que cette année, elle a été fondamentale. Il y a eu un vote, mais vraiment extrêmement important sur le droit d'auteur. Un vote extrêmement important, obligeant des plateformes américaines type Netflix à proposer 30% de programmes européens. Ça change tout, hein.
Il y a eu la législation sur les lanceurs d'alerte.
Alors expliquez-nous, parce que ça, on en a parlé hier à propos des journalistes français
qui sont convoqués par
la DGSI.
Bien sûr.
Ça a été voté en avril, ça a été porté par les Verts. Racontez-nous, c'est extrêmement important.
Ça a été porté par les Verts, ça a été aussi porté par une députée française qui est sortante et qui ne peut pas se représenter, qui s'appelle Virginie Rosière, qui est du Parti radical de gauche. Et ça a été une bataille du Parlement européen qui a fait plier les États. La France, en premier, ne voulait pas de cette protection des lanceurs d'alerte. Ils voulaient que les lanceurs d'alerte se tournent d'abord vers leur entreprise, vers leur structure, vers leurs institutions pour dénoncer en premier lieu. Alors qu'on sait très bien que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne et que vous aurez beau dénoncer en interne, vous finirez par être ostracisé, placardisé, voire viré. Et c'est une bataille du Parlement européen qui a été aidée, en fait, par des ONG qui a réussi en fait à se servir de l'opinion publique autour de ces questions suite au scandale des LuxLeaks, des Panama Papers, etc.
Du Mediator,
entre autres, des lanceurs d'alerte, il y en a énormément et on sait en fait qu'ils risquent énormément en fait à prendre la parole. Et cette nécessité de les protéger a été portée par les parlementaires européens, aidés par l'opinion publique. Et en ça aujourd'hui, c'est pour ça que ce déficit en fait d'information autour de ces institutions, mais pas que, c'est-à-dire que là l'idée c'est pas de partir juste du Parlement européen, mais du terrain. que ce que vivent aujourd'hui les lanceurs d'alerte, et ben c'est aussi important en fait de le porter.
Merci beaucoup. Merci Nora Hammadi, Vox Pop, c'est tous les dimanches sur Arte à 20h05. C'est la fin de l'émission préparée par Redouane Tella et Anne-Cécile Perrin, réalisée par François Audouin avec Alexandre Chenet à la technique. Bonjour Ali Rebelli.
Bonjour Sonette Villers, et ce matin on va prendre le train, le plaisir de prendre le train. J'adore, qu'il s'agisse de l'Orient Express, le Transsibérien, mais aussi le petit train jaune dans le Roussillon, hein, qui est formidable ce petit train. 01 45 24 7000, racontez-nous vos voyages en train.